Merci d'écouter Radio Capi. Il est temps de vous proposer notre chronique Diaspora qui reçoit ce matin messieurs héritiers Nosso, congolais, résidant aux États-Unis dans la ville de Maine depuis une année. Héritier et avocat ici en RDC et bien sûr aux États-Unis, il exerce d'autres activités. Avec lui, nous allons parler de sa vie et de son séjour américain. Bonjour monsieur héritier.
Oui, bonjour Juninal.
Comment vous allez monsieur?
Je vais très bien. Et toi?
Oui, ça va très bien. Je disais tout à l'heure que vous habitez les États-Unis depuis une année. Mais d'abord, vous êtes avocat ici en RDC. Vous avez étudié à l'université protestante au Congo. Dites-nous, monsieur héritier, quels ont été les motifs de votre départ de la RDC? Pourquoi vous êtes parti d'ici?
Oui, j'ai quitté la République démocratique du Congo pour des raisons de formation et beaucoup d'opportunités dont je suis en train de bénéficier actuellement. Et présentement, là, je suis en train de suivre plusieurs formations, notamment sur les violences sexuelles. Et puis, le mois prochain, ce serait Citizen Police Academy. Il y a d'autres formations sur lesquelles j'ai déjà suivi.
Vous avez d'autres activités que vous assumez actuellement. Vous êtes chargé de l'éducation communautaire dans une ONG. Parlez-nous de cette ONG et expliquez-nous en quoi consiste votre travail.
Ok, d'accord. Je suis le chargé de la prévention et éducation communautaire à l'ONG appelée Immigrant Research Center of Men. Et en français, ça peut être appelé un centre de ressources pour les immigrants de Men. Et en ma qualité de chargé d'éducation communautaire, j'organise des activités de formation et de sensibilisation pour tous les immigrants. Et nous avons aussi beaucoup de thématiques que nous utilisons pour sensibiliser les immigrants, notamment les violences basées sur le genre, la transportation, le housing et puis l'immigration. Comme tout le monde le sait, le taux de violence basée sur le genre est très élevé sur les États-Unis et aussi le taux de divorce, vous allez remarquer. Moi, je me rappelle même quand je suis arrivé sur les États-Unis, la plupart des personnes que j'ai rencontrées, tout le monde me disait qu'ils étaient des divorcés. Et tu peux voir même un papa de 50 ans, une dame de 60 ans, au lieu de parler que son mari, il ne parlait que de son boyfriend, c'est-à-dire
petit ami.
J'ai mené beaucoup de recherches, je me suis rendu compte que la plupart des personnes sont divorcées et la cause du divorce, ce sont les violences basées sur le genre. Et quand nous organisons des activités, nous sensibilisons les immigrants sur les violences sexuelles, les violences domestiques et les violences basées sur le genre. Après, il y a aussi d'autres thématiques comme je viens de vous dire, le housing, donc les logements et puis l'immigration et la transportation.
Alors, quelles sont les personnes cibles pour votre sensibilisation? Je voulais dire, à qui est destiné ce message? Est-ce que vous sensibilisez les Américains ou des personnes d'autres nationalités qui vivent aussi là-bas?
Oui, notre cible principale, ce sont des immigrants, sans tenir compte de leur pays. La plupart des immigrants ici, ce sont des Africains, mais il y a aussi des immigrants qui viennent d'Europe. Mais il arrive des fois, certaines activités, nous organisons avec les Américains. Mais notre public cible, ce sont les immigrants de la RDC, Congo-Brazzaville, de l'Angola, Nigeria, de l'Europe, de tout pays confondu.
Et comment est perçu votre message? Comment ces gens comprennent les messages que vous voulez faire passer?
Ah oui, d'abord il y a un grand problème de la culture. Je vous donne un exemple. Comme tout Africain le sait, selon la culture de plusieurs frères africains, il y a des rumeurs, des sarcasmes qui sont transformés par la plupart des gens comme des informations. Et vous allez vous rendre compte, pour la plupart des personnes, quand ils arrivent ici aux États-Unis, je donne un exemple en matière de violence sexuelle domestique. Il y a des fausses informations, des mythes qui circulent selon lesquels, quand tu es victime de violences domestiques, quand tu vas à la police, le fait que tu ne connais pas l'anglais, on ne va pas recevoir c'est-à-dire on ne va pas recevoir ta requête. Imaginez, il y a d'autres fausses informations selon lesquelles, quand par exemple tu es une nouvelle arrivante aux États-Unis, si tu as des problèmes à l'immigration, si tu vas peut-être intenter une action en justice contre une personne, ça risque d'affecter ton dossier à l'immigration. Il y a beaucoup de fausses informations qui circulent dans la tête des immigrants. Et la plupart d'eux sont très contents quand nous organisons des conférences, nous leur donnons de fiables informations par rapport à leurs droits. Et puis nous les encourageons toujours de dénoncer les cas de violences sexuelles ou de violences domestiques qu'ils subissent. En plus, nous organisons beaucoup d'activités pour leur apprendre la culture américaine. Je vous donne un exemple en matière de transportation de véhicules. Ici, la règle aux États-Unis, quand le policier de roulage vous trouve en cours de route, quand vous êtes sur le volant, vous ne devez pas, vous devez garder votre main sur le volant. Vous ne devez pas quitter le véhicule jusqu'à ce que le policier vienne chez vous. Et beaucoup de personnes ont été tuées juste parce qu'ils ne savaient pas ce principe-là. Les policiers stoppent son véhicule au lieu de descendre, au lieu de rester à bord du véhicule. Le chauffeur descend et le policier croit qu'il voulait peut-être les tuer. Donc, il y a beaucoup d'activités que nous organisons pour donner des fiables informations à tous les immigrants. Et puis, pour la plupart des cas, qui sont des problèmes, par exemple, les victimes de violences sexuelles, nous les orientons, nous les assistons dans les processus auprès de la cour, nous les défendons pour qu'ils puissent être rentrés dans leurs droits. Donc, en général, ce sont déjà des activités que nous organisons. Immigration Centre of Maine.
Et en même temps, vous êtes consultant et qu'est-ce que vous faites en SAV?
Oui, en tant que consultant, généralement, j'anime des conférences ici aux États-Unis et puis les toutes dernières conférences que j'ai animées, l'une était à Bates College. À Bates College, j'avais animé une conférence sur les violences sexuelles en Afrique et puis à l'Université South of Maine, je venais d'animer une conférence sur la culture africaine. Et à Bates College, généralement, quand j'anime des conférences, il y a quelque chose que je n'oublie pas, c'est de présenter aussi les points positifs de l'Afrique, puisqu'il y a beaucoup d'Américains qui ne pensent qu'en Afrique, il y a des forêts, qui ne savaient même pas qu'en Afrique, qu'il y aurait des bons avocats, qu'il y aurait des bons médecins. Alors, chaque fois que nous partons dans des conférences, nous essayons aussi de présenter les points positifs du monde et de la République démocratique du Congo. Et généralement, je me rappelle même actuellement, beaucoup d'Américains ont découvert le coltan, puisque la RDC récolte environ 70% des coltans à travers le monde. Et nous essayons de parler des points positifs d'Afrique pour que le monde, le futur dirigeant des États-Unis, puisse savoir qu'en Afrique, nous avons beaucoup de richesses et nous avons aussi des têtes capables de bouleverser ce monde. Donc c'est ce que je fais souvent en tant que consultant. Et dernièrement aussi, quand il y avait des problèmes à l'est de la République démocratique du Congo, j'avais organisé des rassemblements ici aux États-Unis pour compatir avec le massacre des Béni. Donc c'est ce que je fais en tant que consultant, parce que sur conférence, mais aussi mobiliser les Américains pour compatir, pour parler de la République démocratique du Congo.
Monsieur Ritier, vous avez étudié le droit ici à l'UPC, comme je le disais tout à l'heure. Est-ce que vos études de droit, pour dire votre diplôme en droit, est accepté là-bas?
Pas du tout. La première des choses, quand vous êtes juste à l'étranger, par exemple, le cabinet de la République démocratique du Congo, vous devez, vous n'allez pas devenir avocat automatiquement ici. Il faut d'abord faire translation, donc traduire vos diplômes en anglais, et après cela, on doit vous donner des crédits, c'est-à-dire évaluer vos diplômes et puis poursuivre les études ici sur base de cours dont la décision voudrait assez que vous puissiez poursuivre. Donc, c'est-à-dire, c'est pas automatique de devenir avocat ici. Donc, vous devez d'abord faire l'évaluation, la traduction, puis l'évaluation de vos diplômes pour continuer à étudier ici. Et ce qui est de mon cas, je suis dans les processus pour continuer les études ici. Et d'ailleurs, nous avons une organisation que nous appelons MANA, et c'est une organisation où tous les avocats du monde entier se retrouvent ici aux États-Unis, précisément ici à Maine. Nous échangeons, nous nous offrons des opportunités. Et dans notre groupe, la plupart des membres de ce groupe, en dehors des Rwandais, la plupart sont des Congolais, et je suis fier de ça.
Vous arrivez aux États-Unis, c'est un pays anglophone, vous quittez la RDC qui est un pays francophone, et ça fait seulement une année que vous êtes là, et quand vous arrivez directement, vous avez beaucoup d'activités, c'est vrai que vous êtes parti pour raison des formations. Aujourd'hui, vous êtes éducateur communautaire, vous êtes consultant, vous animez des conférences, vous les faites en quelle langue? Vous aviez déjà des connaissances en anglais ici, ou vous avez appris sur place, et comment vous faites pour vous en sortir?
Oui, en tout cas, comme j'ai toujours conseillé à tout le monde, en français on dit à qui la langue à Rome va, ce qui veut dire quand on a la langue, on a la facilité d'aller partout. Quand je suis arrivé ici, au début, j'avais des difficultés de langue, bien qu'en RDC, j'étais un peu fort en anglais. Quand j'étudiais, quand je faisais mes études, j'étais un peu fort en anglais, mais là, avec les British et la grammaire, l'anglais américain, il y a un problème, surtout des prononciations de l'accent américain. Alors, quand je suis arrivé ici, j'avais connu un peu beaucoup de difficultés en termes de langue. Je voudrais bien organiser beaucoup de choses, mais la langue constituait un béton noir pour moi. mais je me suis coupé en mille morceaux pour améliorer mon anglais. Et puis encore, c'est le courage. Tu vois un peu, comme disait quelqu'un, ce ne sont pas des hommes très intelligents qui nous manquent, mais ce sont le courage. Alors, c'est ce qui fait que non, malgré que mon niveau d'anglais n'est pas très, très, très élevé, mais contrairement à d'autres personnes qui parlent mieux l'anglais que moi, je sais quand même de réaliser beaucoup de choses et je sais quand même d'honorer mon pays. Donc, il y a un problème de langue, c'est pourquoi nous conseillons à tous nos amis africains qui sont en Afrique, au Congo, de pouvoir, de ne pas négliger la langue. Donc, je me retrouve quand même, il y a d'abord le courage qui m'anime, j'affronte les gens avec mon niveau un peu moyen d'anglais, j'affronter les gens et puis c'est ce qui fait que je puisse réaliser beaucoup d'activités. Mais en dehors de ça, il arrive des fois, dans le temps où je suis, il y a un cadre qui est appelé Centre Franco, c'est un cadre des francophones et puis nous nous retrouvons, c'est un peu ça. Donc la langue n'est plus une barrière pour moi, mais au début, c'était quand même une cassette.
En dehors de la langue, à quelle autre difficulté vous avez été buté à votre arrivée aux États-Unis? C'est un pays où vous n'avez pas vécu pendant tout ce temps, des difficultés que vous avez rencontrées à l'arrivée?
Oui, les difficultés, c'était par rapport aussi à la culture. Vous allez vous rendre compte, quand vous venez ici aux États-Unis, par rapport à notre culture, vous êtes gentil à tout le monde, et puis vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est tout là. Mais il y avait beaucoup de difficultés qui étaient liées à la culture, avec la culture américaine, vous pouvez rencontrer une personne. La personne vous est très gentille, tout là, et, mais toi, de votre côté, tu peux croire que par rapport à sa gentillesse, et puis tu fais, bon, pas du tout toucher la personne, mais tu commences à beaucoup parler avec lui, mais tu vas te rendre compte, après cela, la personne va te médier chez une autre personne, regarde, c'est que telle personne m'a un peu parlé. Donc c'est un peu cela, ce que j'avais rencontré un peu comme problème de la langue, c'est un peu ça, mais en général, en tout cas, je n'avais pas du tout rencontré beaucoup de problèmes en termes de mon intégration ici, étant donné que depuis l'Afrique, j'ai travaillé souvent avec des Américains aussi, je faisais aussi beaucoup de recherches. Donc, c'est un peu ça.
Alors, célibataire sans enfant, dites-nous si c'est pas indiscret, vous pensez pas fonder une famille?
Ah oui, bon, c'est quand même important d'avoir une famille ici, mais ce n'est pas vraiment ce n'est pas vraiment une urgence pour moi. C'est aux États-Unis, tu vois. Vous voyez, le mariage influence nos vies sur tout le plan. Comme vous pouvez le constater, quand on a une très bonne femme, votre vie peut aller très bien. Mais quand vous avez une très mauvaise femme, votre situation peut dégringoler. Et je suis en train de raisonner peut-être dans 2 ans ou 3 ans ou une année. Je ne sais pas encore, mais ce n'est pas du tout encore une priorité pour moi. Puisque je veux encore consacrer beaucoup d'énergie dans l'organisation de ma vie ici, étudier et puis quand je vais retourner au pays pour participer à son développement. Puisque ma vision, c'est d'acquérir les connaissances, l'expérience que je suis en train d'acquérir. C'est la raison pour laquelle, presque tous les mois, je participe aux formations et puis retourner au pays pour travailler. Et puis les mariages, des fois, c'est très bien, il y a beaucoup de qualités, mais des fois, ça pourrait aussi, la chose de la famille, handicaper aussi que je sois libre pour participer dans plusieurs activités. Voilà un peu la réalité, mais peut-être dans 2 ans, 3 ans, une année, je ne sais pas.
Vous vivez dans l'état de Maine, un état qui n'est pas très très connu. Et si d'autres personnes, d'autres Congolais prenaient connaissance de cet état à partir de vous et voudraient bien venir s'installer aussi là-bas, quels sont les avantages que présente cette ville?
Oui, l'état de Maine, ce n'est pas très connu, comme vous venez de le dire, mais ça regorge un peu beaucoup d'avantages. D'abord, c'est un état très calme, si vous voulez élever les enfants, c'est une meilleure place pour moi pour élever les enfants. Il n'y a pas vraiment de racisme insécurité partout au monde, mais ce n'est pas du tout remarquable comme dans d'autres états. Et le taux de tuerie est moins élevé par rapport à d'autres états. Ici, vous pouvez même vous promener à 1 heure, à 2 heures, vous n'allez pas entendre que telle personne a été tuée, contrairement dans d'autres états où vous ne pouvez même pas marcher notamment. Ici, vraiment, c'est un état très calme. Et à part ça, il y a aussi de l'assistance. Donc, ici, quand vous êtes là, si vous n'avez pas de maison, vous n'avez pas de l'argent, il y a de l'assistance. Mais il faudra aussi annoncer, il y a d'abord un projet pour annuler toutes ces assistances-là. Actuellement, c'est ce que le gouverneur a déposé au niveau du Parlement. Le mardi, nous avons une grande activité et je fais partie aussi des organismes de cette activité pour plaider à ce que l'assistance, la prise en charge de tous les résidents de Maine puisse continuer. Mais l'intention est d'animer ces assistants. Jusqu'à preuve du contraire, l'avantage, il y a quand même de l'assistance. Vous pouvez peut-être, il y a la question des soins médicaux quand vous n'avez pas d'argent ou quand vous êtes considéré comme pauvre ici aux États-Unis. Quand on dit pauvre ici aux États-Unis, vous pouvez avoir un véhicule, mais vos ressources financières sont impunies. Ils ne vous permettent peut-être pas aussi de réaliser de beaucoup de choses pour vous aller à l'hôpital gratuitement. Il y a quand même beaucoup d'avantages. Et la seule chose qui n'est pas très bien ici à Maine, c'est le foie. En tout cas, il fait un foie de canard. Si vous n'êtes pas capable de supporter le foie, là, il ne faudrait pas venir. Mais sinon, c'est vraiment un très bon état. Et beaucoup de gens l'apprécient, c'est très calme. Il n'y a pas beaucoup de distractions.
Alors, y a-t-il une forte communauté congolaise là-bas aussi?
Oui, il y a une forte communauté congolaise. Et moi aussi, je suis le vice-président de la communauté congolaise ici à Lewiston, puisque Maine, c'est un état et Lewiston, c'est une ville, je suis le vice-président au niveau de la ville, mais la communauté au niveau de l'État, c'est vraiment fort et nous réalisons beaucoup d'activités. Nous avons même des financements, nous organisons en tout cas beaucoup d'activités, la communauté est forte. Et en dehors de l'image positive que tout le monde fait pour le président, en dehors de l'image négative qui se propose sur les Congolais, je ne voudrais pas les rappeler puisque c'est un secret de collectionneur, mais il faudrait aussi souligner aussi une image aussi positive que les Congolais sont adaptés de faire véhiculer ici aux États-Unis, précisément à Maine. Je vous donne un exemple. Il y a des lieux comme Adapt Education, là où les gens vont pour apprendre le cours d'anglais et d'informatique. Et actuellement, à Adapt Education Lewiston, il y a beaucoup de Congolais qui dispensent cours. Il y a par exemple le cours de management dont j'avais aussi bénéficié. Et il y a des Congolais, M. Claude et M. Clément qui disent ce cours-là. Donc vraiment, nous donnons quand même une très bonne image de la RDC. Le petit regret, c'est seulement qu'il y a beaucoup de gens qui ont étudié un peu le démocratie du Congo, mais qui avaient recouvert leur nationalité dans d'autres pays comme Angola ou Rwanda, qui lorsqu'ils réalisent de bonnes choses ici, peut-être l'image, ils ont étudié en RDC, mais l'image va par rapport au pays où ils ont recouvert la nationalité. Mais sinon, ici, aux États-Unis, ici à Maine, la communauté congolaise est très forte et nous véhiculons une très bonne image. Là où je vous ai dit, là où nous sommes, nous avons une rencontre des avocats américains, de plusieurs pays africains. La plupart des groupes, la plupart des avocats, des juges qui sont là, ce sont des Congolais. En tout cas, la communauté est forte et nous essayons de donner le meilleur de nous.
Monsieur Etienne Nosso, je rappelle que vous êtes Congolais, juriste depuis la RDC et vous vivez aux États-Unis depuis une année maintenant. Vous avez autre chose à ajouter avant qu'on ne se dise au revoir?
Oui, des choses à ajouter, ça ne manque jamais, puisque le fait que nous sommes sortis ici, en dehors du pays, nous sommes en train d'acquérir de l'expérience, et puis nous sommes en train d'apprendre beaucoup de choses. Et il y a des choses qui nous énervent par rapport à la situation de notre pays. Quand vous voyez, par exemple, la diaspora en train d'organiser des marches, un peu des sit-ins par rapport à la situation de la RDC, il ne faut pas les condamner, il y a beaucoup de choses qui s'énervent. Et nous essayons un peu de nous raser la tente pour que retour au pays puissent changer les choses. Je vous donne un exemple. Ici, depuis que je suis là, vous pouvez aller dans une administration. Celui qui vous reçoit à l'administration ne vous demande même pas un denier, même pas un franc. Et vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas donné en dehors du fee que vous avez payé pour les services dont vous voulez bénéficier au niveau de l'administration. Il ne vous demande même pas un franc, donnez-moi de la bière. Et toi-même, tu n'as même pas l'idée de penser à cela. Mais contrairement à la République démocratique du Congo, c'est un secret de fonctionnaire partout où vous allez, même si les frais légaux sont tels montants, mais il y a quand même des gens qui travaillent, qui exigent avant que votre dossier puisse aller rapidement, il faut payer quelque chose. Il y a vraiment ce problème de culture. Vous allez vous voir, nous sommes dans un petit état, une petite ville, mais la manière dont les choses sont bien organisées, en tout cas, ça nous fait penser à la République démocratique du Congo, surtout que nous avons beaucoup de potentialités. Et nous essayons quand même de voir comment retourner au pays pour changer les choses. En tout cas, nous avons beaucoup de potentialités en République démocratique du Congo. Si et seulement nous changeons nos comportements, les choses pourraient aller. C'est vraiment ça notre souci. Quand nous attendons les budgets proposés, environ 4 milliards de dollars, quand nous écoutons de loin les problèmes d'arrestation, quand nous écoutons de loin tant de problèmes, en tout cas, on n'est pas très à l'aise et nous ne dormons pas sous notre oreiller. Mais c'est un peu ça ce que je voudrais un peu dire, mais notre souci, notre passion est toujours envers le Congo et nous allons revenir bientôt là vers tout ce que nous aurons acquis ici comme connaissance, comme expérience pour changer l'image du pays. Je voudrais aussi dire, j'ai dirigé un centre qui est appelé Fikatimban, c'est un centre des adolescents et jeunes Et j'avais aussi beaucoup d'activités, beaucoup de projets. Pendant à mon retour au pays, je vais essayer de renouveler ces activités-là, les visiter pour participer au développement de la République démocratique du Congo.
Nous vous remercions, M. Ritier Nusso.
C'est moi qui vous remercie, Julie Ngala.